Alors donc, notre Édouard Castres fait partie de l'école genevoise. Il était donc un des élèves du fameux Barthélemy Maine, et il faut se rappeler que dans la seconde partie du XIXe siècle, il y a une véritable école de peinture genevoise, et c'est un métier, n'est-ce pas? Et c'est pas un métier artistique, c'est un métier, on pourrait dire, artisanal. Et on forme énormément de peintres à Genève dans cette seconde moitié du XIXe siècle, et Édouard Castres en est un parmi beaucoup d'autres. Ce qu'il y a d'intéressant pour nous, c'est que c'est en 76 apparemment que l'idée du panorama germe dans l'esprit de Henberg, et il engage tout de suite Castres. Et vous savez que Castres va passer un hiver entier aux Verrières pour repérer, pour se plonger dans l'atmosphère du moment, et puis aussi du frima et des paysages, etc. Et Monique vient de m'apprendre que aux Verrières on a décidé de sortir de cette inculture par rapport au panorama, parce que si vous allez maintenant aux Verrières, il y a quasiment rien par rapport à l'événement du 1er février 1871, et ils essaient de monter un parcours qui sera lancé en janvier de l'année prochaine. Alors, ceux qui aiment la peau de phoque, ben, vous irez en janvier le faire, mais je pense que nous, on essaiera plutôt d'y aller en juin ou un moment, où, etc. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que Castres, là, lance véritablement une démarche scientifique. Il va sur place, il fait de très nombreux croquis, et il paraît que un certain nombre de ces croquis sont maintenant conservés à la Fondation Gottfried Keller. Il commence à s'intéresser aux uniformes, etc., etc. Et on est donc 5-6 ans après l'événement, donc c'est relativement encore proche, et il a certainement pu interviewer des villageois, des acteurs de l'événement, mais curieusement, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on va ressortir ça. Toujours est-il qu'il travaille on est en 76, il va travailler 5 ans, et le démarrage de la peinture, tenez-vous bien, commence fin mai 1881, fin mai, et le 24 septembre de la même année, c'est l'inauguration. C'est-à-dire que en 4 mois, le panorama est réalisé. Ce qui, quand on pense qu'il y a 1500 mètres carrés de peinture, bon, vous me direz qu'il y a de la neige, hein, et le ciel, ça, je pense que c'est moins difficile, encore que peut-être c'est très difficile, moi j'y connais rien du tout. Mais c'est... Alors justement, c'est une équipe. Alors, pour nous, c'est aussi ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est le chef d'un chef d'orchestre, on pourrait dire, et on voit que c'est le gratin des jeunes peintres de l'époque. Le plus célèbre, c'est Ferdinand Hodler, qui est venu de Berne, je crois de Thun. Et Ferdinand Hodler est pour nous un de ces peintres tout à fait caractéristiques. Il a 25 ans à l'époque. Il peignait dans la région de Thun, il peignait des petites pochades pour les touristes anglais avec un petit bout de montagne, une vache et puis un armaillis, n'est-ce pas? Et il s'ennuyait à mourir dans ces peintures. Elles sont devenues très rares. Hein. Je sais qu'il y en a une à la Fondation Barbet à la Pierrière, parce que feu Claude Barbet, qui était un très riche mécène et un homme absolument fantastique, m'avait montré une fois un de ses tableaux de la première partie de Hodler. Et Hodler arrive à Genève parce que Genève, à ce moment-là, est véritablement une métropole picturale. Ça, on a oublié. À l'époque, c'était évident. Mais il crève la faim. Alors, il accepte ce boulot, disons que, apparemment, il grogne un peu. D'ailleurs, on le verra, il est représenté. Alors, on a autrement Henri Sylvestre, qui, lui, est chargé de concevoir l'avant-scène en relief, nous y reviendrons. Et puis, alors, je vous énumère des peintres qui, à l'époque, commencent à percer, qui vont être les peintres d'histoire, notamment, jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est Louis Dunqui, un des grands peintres de l'escalade, notamment. Auguste, Gustave Auguste, je ne sais pas, de Beaumont. Henri Hébert, qui est aussi un peintre d'histoire. Frédéric Dufaux. Et puis pour les bêtes, notamment les chevaux, on a demandé à Evert von Meuden, je vais demander à Béatrice si c'est un de ses ancêtres, c'est de la famille, les peintres animaliers genevois depuis Agas avaient une cote internationale, notamment dans le monde anglo-saxon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous signale deux Belges qui font partie de l'équipe. On ne donne pas leur nom. Je me réjouis de pouvoir les trouver. Je suis presque sûr qu'ils avaient été envoyés par la compagnie belge qui avec laquelle Enberg avait traité pour être sûr de la conformité des standards, etc., etc. Hein? Donc, on a quelque chose de tout à fait bien organisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que immédiatement, la réception le succès du panorama est assurée. Hein, les critiques sont très favorables. C'est intéressant là de voir que certaines œuvres d'art, nous le considérons maintenant comme une œuvre d'art, ont été immédiatement bien reçues. Et il va donc être très populaire. Le prix d'entrée, c'est 1 franc. Et 1 franc à l'époque, c'est cher, n'est-ce pas? Et on sait que c'est le prix standard. Il y avait d'autres expositions de peintres, par exemple au Palais de l'Athénée, le prix d'entrée, c'était 1 franc. Donc c'est quand même ou pour les touristes ou pour des gens très aisés. Je pense que les chiffres du Salon de l'Auto doivent nous donner une indication. Bon, naturellement, il y a des milliers, des dizaines de milliers de plus, mais sur les 700 000 visiteurs au palais de l'automobile, au salon de l'automobile, on a presque la moitié qui ne sont pas de Genève comme visiteurs. Hein? C'est intéressant. Et on pense que notamment de la France, d'Allemagne, mais vous avez raison, c'est vraiment un salon international. Et on peut penser que le panorama avait le même type de visiteurs. Non. Le 24 septembre 1881, le panorama est exposé à Genève sur la place, le rond-point de plein palais, je crois. À la place du Cire.
Rue du Diorama, ça s'appelle maintenant. Rue du Diorama, c'est vers le cimetière des Rois.
Mais à mon avis, il a été même déplacé. Le bâtiment a été déplacé. Mais François a raison, donc c'est vers le cimetière de... Je dois avouer que j'ai... Et le seul reste du bâtiment, parce que donc vous le savez que malheureusement il a émigré, c'est-à-dire qu'en 89, le 31 août, il est installé à Lucerne. C'était la vocation des panoramas. Mais simplement, à Genève, il y a eu autre chose, puis le bâtiment a été démoli. À Genève, ah oui, tout à fait. En 1881, il est peint en... Parce qu'il y avait... Lucerne se lançait dans la commercialisation du tourisme de masse, et puis c'est Enberg hein, qui a acheté, c'était un terrain vague où nous allons à la Löwenplatz maintenant. Et c'était juste à côté du monument du lion, j'espère qu'on ira le voir, le magnifique lion, et c'est juste à côté d'une autre curiosité que les Lucernois avaient découverte, c'est le jardin des glaciers. C'est-à-dire qu'en ôtant de la terre pour faire des constructions, ils ont vu que là se trouvaient les restes de ces fameuses marmites glaciaires, c'est-à-dire des pierres dures qui étaient charriées par les torrents alpestres et qui créaient des trous qui ressemblent à des marmites. Et il y a là le jardin des glaciers qui était aussi une des célébrités. Et puis, juste encore au-dessus, les Lucernois ont construit un musée d'histoire avec justement des éléments très patriotiques et aussi des reconstitutions des montagnes, etc. Il y avait là donc vraiment un programme touristique pour Lucerne. Et Donc la toile a été transportée de Genève à Lucerne, 2 tonnes, et donc on a eu là une attraction. Il y avait jusqu'à 60 000 visiteurs par an. Donc je pense qu'au point de vue financier, ces messieurs s'en sont bien sortis, puisque pendant 36 ans, Enberg, père et fils, ont exploité le panorama à Lucerne. Puis ensuite, on a eu la période d'après-guerre, où il n'y a plus de tourisme, de toute une catégorie de la population européenne très aisée, simplement disparue dans la guerre, était saignée financièrement par la guerre. Et c'est curieux, parce que le musée de la paix et de la guerre, qui se trouvait à Lucerne, disparaît aussi dans les années 20, et le panorama connaît une grande éclipse. Par exemple, je sais qu'en 1949, il est devenu simplement un bâtiment d'une entreprise de transport qui peut y ranger ses camions, etc. Et on fait 2 niveaux, n'est-ce pas? Alors on l'a surélevé un peu, quand même, pour pas tout détruire, et on a ôté 2 fois 2 mètres de hauteur sur 110 mètres de long, oui, et apparemment, je sais pas, ça m'intéressera de savoir, peut-être François en sait plus, ces bandes de panorama, elles n'ont pas été reconstituées. C'est tout à fait étonnant. Bon, c'était surtout de la neige et puis du ciel, hein. Mais enfin, au niveau visuel, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas du tout. Ça fait exactement le trompe-l'œil. Et il faudra attendre 1976 pour qu'on se... heureusement, le bâtiment n'a pas été démoli et la toile n'a pas été ôtée, ce qui l'a sauvée, même si elle était très abîmée. Et il y a eu toute une... donc, en 76, c'est une demoiselle Brigitte Kempfen qui lance le sauvetage. C'est bien de la nommer, parce que sans elle, je pense qu'il n'y aurait plus rien. Une association se constitue. Et puis, la ville de Lucerne vote en 96. Mais c'est tard, un crédit de 19 millions pour la reconstitution de l'œuvre, et c'est depuis ce moment-là que le tableau va renaître. Disons qu'il y a un point, je me réjouis d'entendre notre guide, qu'il faut savoir, c'est que tout l'avant-plan, ce qu'on appelle le faux terrain, donc quand on est sur la plateforme, on a une première partie qui est physiquement en relief. Et puis ensuite, il y a une transition très subtile, et puis après, on passe de l'objet en 3 dimensions au tableau. Eh bien, tout cet avant-scène a été refait, il était reconstitué, il était même souvent inventé. Là, on a une partie qui n'est pas du tout celle de 1881. Curieusement, on n'avait pas gardé des relevés très très précis. Alors, par exemple, les mannequins que vous allez voir, ce sont des gens des années, la fin des années 1990, donc on a pris des portraits, des statures des gens de l'atelier de restauration, qui sont transformés en poupées. Enfin, donc là il y a on voit une partie du 21e siècle, enfin la fin du 20e siècle, et non pas de 1880. Je ne gêne pas. Et vous verrez que l'illusion, enfin, vous le connaissez, est très, très bien réussie. Pardon ? Alors, pour les costumes, oui, c'est ça. Mais alors, ils ont dû refabriquer les costumes. Et puis, ils ont dû reprendre des techniques de vieillissement à la mode des Lewis, où on propulse du sable à haute tension, on prend ils ont dû refaire des costumes de A à Z, puis après, on les trempe dans de la boue, on les met derrière sa voiture, puis on va se promener sur des petits chemins de campagne, enfin bref, pour les user, parce que aucun n'avait un uniforme neuf. Et ils ont... les armes, ils les ont trouvées facilement, mais par exemple les cuirasses ou les chapeaux, ils ont préféré en faire des nouveaux, parce que ça coûte, sur le marché, ces pièces de collection coûtent trop cher. Donc tout ça, c'est du moderne, mais mon Dieu, ça fait partie de l'exercice. Je vous dirais juste en deux mots sur Castres, parce qu'il y a beaucoup trop parlé. Moi j'avais prévu que François, parce que François a fait un texte fantastique sur les Bourbaki, Paris, qui va paraître dans les actes d'humanitaire et médecine 2. Et alors, quand j'ai lu son texte, je me suis dit, mais François, il va parler pendant une heure et demie, donc moi je peux aussi parler pendant une heure et demie. Et dire, non, je me suis trompé. Alors je vais très 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 vite. Ben, parce que François avait déjà fini son petit topo sur les Bourbaki, parce que ce n'est que la moitié. Hein. Après, François va...
Après,
il y a échange de conférenciers. Oui, oui, non. La partie... Quand j'ai dit que c'était un groupe d'école qui venait aux gens, je ne mentais pas du tout. Hein. Mais vous êtes très disciplinés. Alors, juste pour Castres, dire que naturellement que c'est son œuvre, et lui, il a la chance de faire partie de ces rares artistes qui ont une œuvre et qui est associée à leur nom, mais qui portent leur nom encore aujourd'hui, etc. Et alors il faut savoir qu'il lui est arrivé un grand malheur, c'est au monde des arts qu'il est arrivé un grand malheur, c'est que Castres s'est marié. Et il n'y a rien de pire qu'un artiste heureux. Ah ben oui, un artiste heureux, c'est un artiste, il fait des enfants, il s'occupe de sa femme, des voyages, des petits baisers, je ne sais pas quoi d'autre, et il délaisse ses pinceaux. Hein? Je dirais, il utilise ses mains plutôt que ses pinceaux. Et pour nous, c'est bien triste, toujours est-il qu'il continue de peindre, n'est-ce pas? Si vous allez à la mairie de Plein Palais, vous avez une grande revue sur la plaine de Plainpalais en 1840. Une revue, je pense, c'est un défilé militaire. Hein. On est très soldats. C'est à la... Oui. Le Gelgen, je pense. Ouais. Et puis, l'autre... oui, on pourrait faire une fois un petit pèlerinage Castres à Genève, ça serait amusant. Parce que il y a la maison Donc on a l'ancienne mairie de Plainpalais, puisque Plainpalais était une commune indépendante jusqu'en 1930. Non, c'est la mairie de Plainpalais. C'est l'ancienne mairie. L'ancienne mairie, voilà. Bon, excusez-moi. Non, oui. Et puis, nous avons, alors, à l'arquebuse, aux exercices de l'arquebuse et de la navigation, dans l'immense salle, tout en haut, vous avez toute une série de personnages, une frise militaire. C'est Castres aussi qui a fait ça. Et puis, nous avons vu au musée militaire genevois, celles et ceux qui étaient avec nous, guidés par l'excellent Robert Gaudet-Blavignac, nous avons vu, c'était le contingent genevois qui partait pour couvrir les frontières en 1856 sur les bords du Rhin, au moment de la crise avec la Prusse. Et puis, aujourd'hui, c'est assez intéressant, quand vous ouvrez Internet et que vous regardez le marché de l'art, vous avez un tas de tableaux de Castres qui passent en vente. C'est assez étonnant. Mais alors, c'est plutôt... c'était des œuvres tout à fait alimentaires. C'est une odalisque que j'ai...
Merci.
Je vous en prie, madame. Si vous voulez mettre dans votre salon une odalisque japonaise, mais elle est très habillée, c'est un petit peu... Enfin, je ne sais pas pourquoi.
Elle est au Japon.
Ah,
c'est quand il a obtenu sa médaille d'or en 1872, il se paye un voyage au Japon.
Ça c'est intéressant. Non, une genevoise, non. Il a épousé une bonne genevoise, Eugénie Miffon, 1877. Miffon, Miraisin. Et ils ont quatre enfants. Bon, écoutez, bien. Et puis, vous pouvez... Il y a une jeune égyptienne aussi qui est en vente. Oui, tout à fait. Et puis, il y a des paysages. Et je signale juste qu'au CICR, dans le grand salon, il y a une scène, une ambulance dans la neige aussi, qui a été achetée grâce, il me semble que c'est François qui l'avait repéré. On a pu actionner deux très riches et généreux mécènes, monsieur Yves Tramar et feu Claude Barbet, qui ont misé à Zurich, je crois, qui l'ont acheté et qui l'ont offerte au CICR. Donc c'est un très beau geste de mécénat genevois, et donc il est au grand salon du CICR. Peut-être ce serait une bonne idée de faire un petit pèlerinage genevois Édouard Castres. Hein, ça pourrait être quelque chose de ce serait intéressant. Et alors ça, on va voir. Puis peut-être une plaque.
Oh, oui.
On va mettre une plaque. panorama. Mais bien entendu qu'on va faire ça. Mais, hein, alors ça, on a une piste. Chers amis, on a une piste. On va. Et puis, attendez, voir la date. Quelle est la date d'inauguration du machin? 24 septembre. 24 septembre prochain. Rendez-vous. 24 septembre prochain, on met une plaque à l'endroit. Hein, d'accord, très bien. Voilà, merci, j'ai fini. Je vous remercie.